J'ai 5 minutes et on va faire simple. Bonjour.
Bon, je vais faire suite et je continue sur ma lancée sur la violence. Sur le dernier podcast où je parlais de l'enfant chien, vous savez, cette petite fille qui recevait de la maltraitance d'une mère qui, elle aussi, était une ancienne enfant maltraitée. Et nous pouvons tout bonnement conclure que les enfants maltraités peuvent devenir des adultes maltraitants. Je dis bien « peuvent » parce que ce n'est pas une obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a des enfants qui ont été maltraités et qui ne sont pas devenus des maltraitants, comme il y a des enfants psychopathes qui ne deviennent pas tous des meurtriers. En faisant ce podcast, tout naturellement, je me suis posé des questions et des questions sur l'origine de la violence. Les questions qui se sont imposées, c'est depuis quand la violence existe? Est-elle génétiquement transmissible? Et une autre réflexion, pourquoi la femme, universellement, est-elle naturellement moins violente que l'homme? En aucun cas, ça ne veut dire qu'il n'y a pas des femmes violentes. C'est pas du tout ça que cela veut dire. Ça veut simplement dire qu'au niveau statistique et dans le monde entier, la violence est faite par les hommes. À ce jour, il y a déjà une réponse pour « est-elle génétique ?» Non, la violence n'est pas génétique. Autre réponse, quand est-ce que nous voyons apparaître la violence? La violence apparaît à l'échelle de l'humanité, en fait, depuis peu, 10 000 ans avant le temps présent. Elle apparaîtrait avec la naissance de la civilisation, l'apparition de l'agriculture et de la sédentarité. Les recherches de l'archéologue Marilène Patou-Matis, qui est spécialisée dans l'époque néandertale, nous dit que malgré ce qu'on a bien voulu nous faire croire, l'homme de Néandertal ne serait pas si violent. Parce qu'à cette époque, il y avait surabondance de tout et il n'y a aucune trace sur les ossements démontrant les violences et le fait de tuer pour tuer. Alors comment la violence arrive aux humains ? Surtout si elle n'est pas génétique. Deux philosophies, Hobbes ou Rousseau. Si on veut répondre fonction Hobbes, est-ce que l'homme est mauvais? En général, on répond toujours souvent à cette question, même maintenant. Oui, l'homme est mauvais. Un peu donc à la Hobbes, loup, l'homme est un loup pour l'homme. Et si on va plutôt de chez Jean-Jacques Rousseau, eh bien lui, il sera dans l'homme est naturellement bon. Mais je ne sais pas si on doit répondre entre bon et mauvais. Je pense que tout ça dépend de l'entourage. Moi, je rejoins la réflexion parce que je ne saurais pas faire la profession que je fais si je pense que l'homme est naturellement mauvais, donc on ne pourrait plus rien y faire. Je ne peux que rejoindre la réflexion de Madame Françoise Héritier. La nature de l'homme n'est pas naturellement portée sur la haine, la compétition et prendre la main sur autrui. Alors, comment se fait-il que l'homme soit toujours aujourd'hui, toujours aussi violent? Quoique là encore, c'est comme pour les Néandertals, nous le savons, la tendance de la violence est à diminuer. Nous sommes dans une société, et moi j'ai dit le contraire il n'y a pas si longtemps, mais bon voilà, c'est ça aussi de sortir de l'ignorance, nous sommes de moins en moins violents. La violence diminue, quoi qu'on en dise. Donc, on en a fait la déduction que la violence est arrivée au moment de la sédentarité avec la propriété. Le « c'est à moi », on n'y touche pas. Et avec la propriété, on a vu apparaître la jalousie, l'envie, avec sa peur de désirer ce que j'ai, de désirer ce que je possède, qu'on puisse me prendre ce qui est à moi. Mais peut-être il serait bon pour cette série de podcasts traitant de la violence de commencer par se mettre d'accord sur la définition de la violence. La violence, c'est une alarme, un tsunami, un truc qu'on ne voit pas venir. Ça se passe dans le corps, ça se passe dans le cerveau et c'est ce qui nous empêche de dire, c'est ce qui nous empêche de parler parce qu'il y a trop de tension, trop de stress, trop de colère non exprimée, des conflits non négociés. Et là, le cerveau dit stop. En fait, la violence, c'est une urgence du cerveau qui bug, qui se déconnecte. On ne peut plus rien contrôler. La violence se mettrait en place lorsque il y a des besoins qui ne sont pas entendus, des besoins frustrés. Mais de quels besoins parlons-nous ? Et là, je trouve juste ça extraordinaire, là où peut nous amener Françoise Héritier. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça génial. La violence prendrait sa source dans les interstices des besoins, ce qui veut dire dans le vide des besoins du vivant, ce qui veut dire les besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Ils sont frustrés et laissent du vide. Le vide, ce vide, et nous le connaissons tous, ce n'est pas supportable, c'est anxiogène. Et le meilleur anxiolytique pour combler ce vide, j'en ai déjà parlé, quand je parle des pulsions, eh bien c'est là encore évidemment une pulsion. La violence serait une pulsion qui se met en place pour nous protéger des crises anxiolytiques, pour nous protéger des angoisses et pour nous protéger de cette sensation de vide. Je dois arrêter, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre des noms sur les besoins du vivant qui sont frustrés. Et j'y reviendrai la prochaine fois, c'est promis. Le besoin de se nourrir, soi et ses proches. Le besoin de faire confiance, se confier, s'abandonner, donc la sécurité. Et alors, il y en a un qui est juste extraordinaire, auquel on oublie toujours. C'est le besoin de conformité, d'être semblable, de son être et dans son avoir, d'être comme les autres. Et la violence prendrait également sa source dans un besoin frustré qu'on va appeler le besoin de justice. Le besoin d'égalité et de justice est fondamental et nous permet de vivre. Bon allez, je continue la prochaine fois parce que c'est captivant. C'est Armelle qui vous parle sur Radio Alpa 107.3. À bientôt, à très vite. Au revoir.